avec Sunwa Assurance IARD RDC qui assure vos biens, votre responsabilité et votre patrimoine financier. Retrouvez-nous à Kinshasa, immeuble Blue Waves Tower. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Dans Priorité santé, nous allons parler aujourd'hui des relations parents-enfants, affection, tendresse, mais aussi autorité, défis et désaccords. Et parfois, même souvent, des difficultés pour se comprendre, pour accepter la vie de l'autre. Dans la petite enfance, dire non à ses parents, c'est une manière de tester leurs limites, de montrer que l'on est capable de décider tout seul. Plus tard, vers l'adolescence, les jeunes continuent à s'affirmer et commencent à faire des choix qui les engagent pour leur avenir. Et c'est là le cœur de notre sujet du jour. Ces projets d'études professionnelles, des relations amicales ou amoureuses, particulièrement importantes, précieuses à cette période de la vie, des vœux, des espoirs, des intentions, des rêves auxquels les parents s'opposent. Non, ces études à l'université ne te correspondent pas. Non, cette fille, ce garçon ne t'apportera rien de bon. Ou encore, tes camarades ont une mauvaise influence sur toi. Comment réagir face à ce type d'opposition? Faut-il renoncer à son idée de départ pour retrouver la paix? Faut-il persister, quitte à provoquer la rupture? Existe-t-il des moyens pour contourner les obstacles? Et peut-être aussi, pourquoi mes parents s'opposent-ils à mes choix? Est-ce que c'est une question de peur, de confiance? Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre au cours de cette émission, en vous donnant la parole à vous, jeunes auditeurs. Mes parents désapprouvent mes projets. Comment réagir? Y a-t-il des conseils, des solutions pour sortir de l'impasse? En studio, avec nous, Dana Castro, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne à Paris et vous avez signé, entre autres, Petit silence et petit mensonge, le jardin secret de l'enfant, aux éditions Brochet.
Comme tous non, les mois. Albin Michel.
Aux éditions Albin Michel, désolé. On va vous retrouver, Adja Idriss Abba, bonjour.
Bonjour.
Adja, en ligne avec nous, vous êtes étudiante, membre du bureau des jeunes féministes de l'Afrique de l'Ouest francophone ainsi que du bureau d'Equipop.
Priorité santé sur RFI.
Alors des pistes, des conseils bien sûr pour essayer de sortir de ces désaccords sans claquer la porte de la maison, sans tourner le dos à la famille. Peut-être d'abord, Dana Castro, des explications. Les parents qui s'opposent au projet de leurs enfants, on peut voir ça à différents moments de la vie, hein. C'est pas simplement au cours de la jeunesse, c'est pas simplement à l'école. Et on peut se demander pourquoi c'est pas simplement une question de contrôle, Dana Castro.
Non, c'est pas forcément. Effectivement, en tant que parent, on peut s'opposer au projet de nos enfants à tout moment dans la vie. Plutôt à l'adolescence, c'est la période la plus critique, mais aussi à l'âge adulte, si ces projets suscitent de l'anxiété sous une forme ou une autre. L'anxiété peut être liée au danger qu'on voit planer sur l'enfant, de souffrance essentiellement, ou de ruine, etc. Ça peut être lié au conflit qui existe entre la tradition, entre la pression de l'environnement et ce projet. Ça peut être lié aussi aux propres projections des parents qui tout d'un coup espéraient tacitement que leurs enfants réalisent leurs aspirations et leurs espoirs. Et le projet contraire.
On a ça parfois en cliché avec, par exemple, les danseuses. La maman n'a pas pu être danseuse. Oui. Elle va vouloir que sa fille devienne danseuse professionnelle.
Ou quelqu'un qui interrompt les études de médecine souhaite très fort que l'enfant devienne médecin pour poursuivre et réaliser, en fait, des aspirations oublié pour les parents.
Son propre rêve. Alors, ça peut être de l'ordre de la protection, Dana Castro, on l'a bien compris, mais parfois aussi une certaine méconnaissance des évolutions en cours, par exemple au niveau professionnel. Forcément, quand on est de la génération précédente, on n'est pas toujours au courant de ce qui se fait vraiment sur le marché du travail, de plein de changements, de la modernité.
C'est certain. Mais je crois que c'est surtout ancré dans des croyances que chacun a dans sa tête. Et la spécificité de la croyance, c'est que c'est une conviction qui ne cède pas à la preuve. C'est-à-dire, même si on démontre que c'est plus comme ça, la croyance est tellement profonde, la conviction est tellement absolue qu'elle résiste à l'argumentation. Donc, chacun de nous a des croyances de ce type. Et si, on a, et si cette croyance explique que le projet est contraire au bien-être de l'enfant, donc à la protection, ou même qui pourrait faire du mal aux parents, comment un projet pourrait faire du mal aux parents, là, je crois qu'on revient à l'environnement et à la pression sociale, parce que peut-être le parent serait critiqué ou vu comme n'ayant pas bien élevé son enfant.
Alors, Hadja Idrissaba, beaucoup de motifs d'opposition entre parents et enfants. Hein. D'ailleurs, certains ont l'impression vraiment de protéger leurs enfants, les écarter d'un choix risqué. Et puis, ça peut aussi bloquer des initiatives, des rencontres. Est-ce que c'est quelque chose d'assez fréquent entre vous, hein, sur les réseaux de jeunes? Vous évoquez beaucoup ce type de problème?
Je pense que c'est une réalité, ce conflit générationnel, parce que moi, je le nommerais ainsi. Du fait que les parents n'ont presque pas confiance à leurs enfants, même si ils dépassent l'âge de la minorité, c'est-à-dire qu'ils ont plus de 18 ans et plus. Et souvent, ces enfants se voient confisqués par leurs parents. Donc, ces jeunes, ils n'ont plus confiance en eux. Et j'en connais assez de jeunes aujourd'hui qui n'ont pas pu réaliser leurs rêves parce que tout simplement, leurs parents ne les soutiennent pas ou voilà. C'est eux qui les guident sur un autre chemin que eux ils ne veulent pas forcément. Mais malheureusement, en fait, si ces enfants essayent d'échanger avec leurs parents, bah ils considèrent cela comme une mauvaise éducation, comme un manque de respect de la part de leur enfant, et donc ils se résignent, ils restent dans leur coin et ne pas réclamer leurs droits, ne sachant pas que c'est leur droit surtout de parler avec leurs parents, de les faire comprendre qu'ils ne sont plus des enfants mais plutôt des adultes qui peuvent aussi décider de leur vie. Donc c'est une situation réelle et ça se passe partout, que ça soit sur des sujets professionnels ou sur leur vie personnelle, leur relation amicale ou amoureuse, ça se passe et les parents essaient toujours de s'imposer. Ça c'est un véritable problème qui nous freine beaucoup, nous la jeunesse, dans nos différents projets.
Parce que aussi on veut pas se couper avec eux, c'est pas parce qu'ils ne sont pas d'accord que pour autant on va leur tourner le dos.
Justement.
Justement, quand ses parents s'opposent de cette manière, qu'il s'agisse justement du choix d'un amoureux, du choix des études, voire même après du choix d'un métier, on imagine que ça peut être extrêmement perturbant. Hadja Idrissaba, ça peut même nuire à la santé physique et mentale. Ça arrive de rencontrer des jeunes qui ont été, on va dire, pas détruits, mais vraiment abîmés par ce type d'opposition?
Oui, mais j'avoue que la plupart des jeunes que moi j'ai connus, parce que ils ont beaucoup plus genre ce côté famille, ce côté parent, c'est quelque chose qui est indispensable pour nous. Donc le plus souvent, si on a des coups durs sur ce côté-là, on n'arrive pas à se séparer des parents ou de la famille.
On ne renonce pas.
Des fois. On ne renonce pas. Mm-hmm. On ne renonce pas et c'est dur. C'est très dur parce qu'on voit certains quand même qui parviennent à le faire dans d'autres parties du monde. Mais quand je prends par exemple en Guinée ou en Afrique, la notion de famille, c'est quelque chose de très 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 important et qu'on ne peut pas se séparer, quelle que soit la cause. Donc, à un moment donné, il faut qu'on parvienne à se comprendre parce que sinon, j'ai connu quand même beaucoup de jeunes hein, qui, par exemple, se veulent se lancer dans la musique, mais que l'éducation, nos valeurs, on nous dit souvent la musique, c'est quelque chose d'interdit, ça se fait pas, c'est pas digne de nos valeurs. Et donc, l'enfant se voit un peu séparé de ses rêves pour s'accrocher à une famille qui n'est pas forcément d'accord avec ce qu'il veut. Donc, c'est très compliqué. J'en connais assez de jeunes qui subissent cela. Et après, ça finit très, très mal. Et les parents se voient vraiment sans aucune force, en fait, quoi. Parce qu'ils ils ne peuvent pas forcément travailler pour leur enfant à la place de leur enfant. Et ils ne veulent pas que ce dernier vive sa passion. Et c'est très compliqué, c'est complexe.
Alors justement, sur ces effets psychologiques d'Anna Castro, ce refus de voir l'enfant choisir, évoluer, parfois voler de ses propres ailes, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur le développement, sur le bien-être du jeune ?
On vient d'entendre que la première conséquence immédiate qui va être renforcée, c'est une perte de l'estime de soi et la présence d'un conflit vraiment très douloureux et très qui rend anxieux entre ce que j'ai envie de faire, entre vraiment les souhaits par ailleurs légitime de tout être humain, et la problématique familiale. Donc ça va créer une situation de conflit importante, perte d'estime de soi, beaucoup d'anxiété et même une forme d'inhibition, de retrait.
On peut aussi entendre, quand on est jeune, les parents dire « Moi, j'ai pas eu le choix, je vois pas pourquoi toi, est-ce que tu irais sur ton propre chemin ? Moi aussi, je me suis pliée à ce que mes parents voulaient. Maintenant, c'est ton tour, à toi, un peu, d'assumer ce rôle, d'être dans la continuité. »
Ah oui, on l'entend très souvent, et pas simplement en Afrique, on l'entend encore une fois dans tous les coins du monde. C'est très difficile à entendre, parce que c'est comme si il faut subir la frustration d'un parent. Donc, en fait, c'est en miroir, ce que le parent n'a pas pu réaliser se produit avec l'enfant. Et pour l'enfant, c'est très difficile d'entendre, parce que c'est arbitraire.
Est-ce que vous avez l'impression, quand même, que certains parents refusent tout simplement de voir les enfants grandir, prendre leurs responsabilités ?
Oui, certains parents ne les voient pas grandir. Et une des explications, c'est aussi lié au rôle qu'ils peuvent avoir par rapport à ces enfants. C'est-à-dire, tant qu'ils sont petits, le parent a une très grande utilité, il a un statut, il est admiré, adoré, etc. Et il contrôle la vie de l'enfant. Plus on grandit, plus ce statut diminue. Et pour certains parents, ça peut même être une problématique de, dans leur esprit, ils perdent la valeur qu'ils avaient ou l'utilité qu'ils avaient pour leur enfant. Et ça peut être très difficile.
Ils veulent rester parents, tout simplement.
Et ils veulent rester, oui, enfin, chef.
Chef, parent dominant. Dana Castro, on va voir avec vous quelles pistes retenir pour éviter le conflit, la rupture. On donne la parole aux auditeurs tout de suite.
Priorité santé sur RFI.
On prend tout de suite la direction du Cameroun. On part pour Maroua avec Abila en ligne. Abila, bonjour.
Bonjour Priorité, bonjour à tous.
Alors Abila, vous, le désaccord porte sur une relation amoureuse. Expliquez-nous.
Oui, j'ai 20 ans. Je suis dans une relation amoureuse depuis 3 ans. Mais il y a précisément un an, je suis allée avec l'aide qui concernait ma relation amoureuse et dû à nos confessions religieuses qui étaient différentes, la mère avait contesté. Et ça m'a découragée. J'aimerais plutôt poser la question à Pinochet. Quel conseil pourriez-vous me donner?
Quel conseil ? Alors Abila, pour revenir un petit peu sur l'origine du conflit, vous disiez, il y a un an, vous en avez parlé à vos parents, ça fait 3 ans que vous êtes dans cette relation. Est-ce que vos parents vous ont dit clairement pourquoi ils étaient contre cette relation ? Est-ce qu'ils ont mis des mots ? Est-ce qu'ils l'ont dit ouvertement ? Ou c'est quelque chose que vous avez compris par vous-même en interprétant ?
Ils m'ont dit exactement du fait que nous sommes d'une confession religieuse différente.
Vous êtes tous les deux chrétiens, mais pas de la même église.
Non, pas de la même église.
Comment vous avez réagi quand ils vous ont dit écoute, Abila, toi, tu es protestante, lui est catholique, ça ne va pas être possible entre vous. Qu'est-ce que vous avez dit?
Non, j'ai gardé juste le silence.
Le silence. Est-ce que ça vous affecte sur le plan psychologique? Est-ce que ça vous rend triste? Est-ce que vous avez, on va dire, des symptômes? Parce que justement, vous avez l'impression que vous ne pouvez plus continuer cette relation. Vous faites quoi? Vous vous cachez?
Oui, je me sens vraiment triste parfois quand je pense souvent à ça, puisque c'est mon choix à moi. Mais par contre, la famille, je crois que la famille est contre. Et pourtant, je ne veux pas aussi désobéir à la famille, tout ça.
Vous ne voulez pas désobéir, vous ne voulez pas pour autant oublier cette histoire d'amour. Pour vous, ce garçon, c'est quelqu'un qui compte énormément ?
Oui, c'est ça.
Il en a parlé, lui, à sa famille ? Comment ils ont réagi ?
Vous dites ?
Est-ce qu'il a parlé de vous, Abila, à ses parents, votre ami ?
Oui.
Il en a parlé et ils ont dit d'accord ou ils sont un petit peu comme votre parent, ils sont hostiles à votre union?
Non, de son côté, je crois que ça va, c'était bon.
Alors, vos parents, vous avez gardé le silence. Est-ce que vous en avez reparlé depuis un an? Ou est-ce que depuis un an, on va dire, ça s'est plié dans un coin, dans votre tête, ça vous rend malheureuse, mais vous ne ramenez plus l'affaire sur le devant de la scène?
Non.
Vous n'en parlez plus?
Non.
Pourquoi? Vous avez peur de leur réaction?
Oui, c'est ça.
Mais il vous l'avait dit calmement ou il s'était mis en colère?
La dernière fois.
Oui. Il s'était mis en colère ou c'était plutôt calme la réaction?
Bon, la réaction, bon, ils étaient quand même calmes, mais pour ne pas susciter d'autres problèmes, j'avais juste gardé le silence pour qu'on n'aille pas loin.
Oui, parce que vous êtes respectueuse, on entend bien ça, Abila. Dana Castro, c'est vrai que c'est très compliqué, cette histoire. Elle est un petit peu classée depuis un an. Ça continue, bien sûr, de tracasser Abila au plus haut point, et on la comprend. Absolument. Si elle est amoureuse. Question aussi essentielle que compliquée, hein. Roméo et Juliette en savent quelque chose.
Roméo et Juliette en savent quelque chose. Enfin, ce qu'on peut constater, c'est que dans la première interaction, Abila a eu le courage d'en parler, et c'est très important. Et elle a eu aussi le courage de ne pas faire dégénérer la situation en gardant le silence. Maintenant, dans une situation comme ça, il est important effectivement de ne pas amener à ne pas faire que la situation dégénère, mais si c'est vraiment le choix, revenir régulièrement à la charge, peut-être par des moyens différents. Alors, quels pourraient être ces moyens? Juste rappeler que ce garçon, il est toujours dans les parages, peut-être d'une manière un peu soft. Oui, on a pris un café, on a travaillé ensemble. Peut-être axé sur le travail et sur ses qualités et sur ce qui est important pour les parents. Peut-être qu'on peut mettre dans la boucle, si ça existe, un membre de la famille qui comprend et qui est d'accord et qui a une importance dans la famille, pour qu'il explique que tout ceci n'est pas grave, que finalement, ce qui compte, c'est la personne. Peut-être qu'il faut aussi négocier à un moment donné avec les parents, en expliquant qu'il y a tout de même des valeurs communes entre les deux églises, qui sont les valeurs chrétiennes, mais que les rites des uns et des autres peuvent coexister et peuvent se pratiquer tout à fait tranquillement. C'est-à-dire, on ne renonce pas à un rite pour intégrer l'autre.
Il peut aussi y avoir dans la communauté peut-être d'autres unions qui ont été mixtes et qui se sont bien passées.
Absolument.
Voir avec éventuellement, pourquoi pas, s'il y a des religieux qui sont un petit peu ouverts et qui
Absolument.
Peuvent servir de médiateurs.
Absolument.
Abila, vous y avez pensé? J'imagine vous faites partie d'une communauté. Est-ce qu'il y a un petit peu des penseurs, des leaders qui pourraient vous appuyer? Peut-être aller vers vos parents, discuter tranquillement. Hein, bien sûr, pas de pression, pas d'intrusion extérieure, mais pour remettre un petit peu cette discussion, pour dire qu'on peut être différent en étant très intéressant aussi, c'est important. Abila, vous êtes toujours avec nous?
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous vous sentez prête un petit peu à reparler doucement à vos parents, ou en ce moment vous n'osez pas vraiment?
Bon, je pense bien reparler avec eux, mais tout de même, comme je suis aussi sur le banc d'école, ils diront peut-être que je dois plutôt me focaliser sur mes études que d'en parler de cela. Mm-hmm. Donc, peut-être après les études, je crois que je vais reparler avec eux.
Donc, vous allez prendre un petit peu de patience, si l'on comprend bien. On vous souhaite bon courage, Abila. On va poursuivre notre échange avec notre invité. Adja, qu'est-ce que vous en pensez, vous, ce genre d'opposition des parents pour la religion, mais ça peut être aussi pour des histoires de famille, de groupe familial. C'est souvent des confrontations, surtout quand on est amoureuse, amoureux, et que les parents ont choisi en quelque sorte quelqu'un d'autre pour nous. C'est vraiment quelque chose qui revient souvent comme discussion. On peut dire aussi derrière la fameuse expression des mariages non consentis ou des mariages forcés.
Oui, j'avoue que c'est une réalité. Hein. J'admire la patience d'Abila, parce que les choses qui sont aussi compliquées de cette manière ne se règlent pas hâtivement. Donc, il faut prendre du temps. Et malheureusement, il nous faut fournir énormément d'efforts pour épouser la personne qu'on aime ou la personne qu'on veut. Et pour cette raison, c'est quelque chose qui est censé être aussi facile devient très difficile à avoir. Donc, souvent, nous, on nous dit, tout ce qui est est difficile à avoir est plus précieux. Donc, c'est pour cette raison qu'on se bat. Et moi, j'aimerais passer un message à toutes ces jeunes filles d'Afrique et du monde qui font face à ce genre de situation, de rester très patiente et surtout de ne pas lâcher, d'aller jusqu'au bout de leurs efforts et d'épouser la personne qu'elles aiment et de ne jamais tomber dans l'erreur d'épouser quelqu'un par contrainte. Justement, pas, ça se fait pas parce que tu auras ruiné toute ta vie. Donc, malheureusement, c'est une réalité. Et j'encourage Abila et j'encourage toutes ces jeunes filles qui font face à ce genre de difficultés et je les souhaite bonne chance.
Et faire preuve de diplomatie. On va poursuivre notre échange avec nos invités Adja, Dana Castro, tout de suite après Maître Gims avec Jusqu'ici tout va bien. On retrouve tout de suite après nos questions en direct.
Malgré le temps qui passe, j'espère. Pourquoi je gagne et puis je perds. Comme un enfant à qui l'on raconte une histoire. Je dois le croire. Malgré les hauts, les bas, je sais m'accorder un dernier essai. Je vois la vie me faire un signe. J'ai lutté pour en être digne. Et je crois que tout va bien jusqu'ici. Et qu'importe à qui les torts, on finit par tomber d'accord. Parfois j'y vais un peu fort, je me méfie de l'eau qui dort. Et si c'était un coup du sort, malgré les doutes, je prends sur moi. Tu sais les coups, je ne les sens pas. Je me relève, je ne tremble pas. Je vis, je vois, ne t'en fais pas. Et je crois que tout va bien.
Priorité santé sur RFI, on continue de donner la parole aux jeunes auditeurs de l'émission. Le sujet du jour, désaccord parent-enfant. Mes parents n'approuvent pas mes projets. On échange toujours avec Dana Castro, psychologue clinicienne, et Adja Idrissaba, étudiante et militante. Autre témoignage, autre question, puisqu'on part tout de suite pour Kinshasa, retrouver Léonard. Léonard, bonjour.
Et bonjour.
Alors vous, c'est un sentiment général, hein. Vous avez l'impression, Léonard, de ne pas être soutenu par vos parents. Expliquez-nous pourquoi.
Bon, oui, j'ai vraiment cette impression que rien de ce que je suis en train de faire n'est jamais assez bien pour mes parents. Et pourtant, ils ont une longueur d'avance sur moi. Parfois, je dirais qu'ils me compliquent, qu'ils compliquent mes problèmes plutôt. Puisqu'ils n'arrivent pas à trouver des solutions, normalement, ils devraient être les mieux placés. Des fois, ils dépassent le cadre de la maison et touchent à ma conduite à l'université, voire même mes choix, mes amis. Bon, ils ont complètement oublié qu'ils ont été jeunes, je n'ai pas mon mot à dire, pas les droits de choisir d'être adulte. Bon, ils ont l'air de se rendre compte. Je n'ai plus 10 ans. Quand je prends une décision, j'arrive, papa, je vais faire ceci dans la vie pour être tel, tel. Bon, vous voyez que non, il y a toujours des complications. Bon.
Vous dites, je n'ai plus 10 ans, Léonard, vous avez effectivement 23 ans. Mm-hmm. Lorsqu'ils s'opposent à vous, vos parents, ils vous donnent quoi comme argument? Ils disent, moi, je suis passé par là, je sais mieux que toi. Qu'est-ce qu'ils disent?
Papa t'a dit, bon, tu dois t'éteindre, tu es encore jeune, ah, tu oui. dois te battre. Bon, ils ne font pas être pressés. Je suis déjà une grande personne, je peux prendre des décisions, des responsabilités. Bon.
Vous réagissez comment, Léonard? Vous vous fâchez ou vous vous taisez?
Bon, je me fâche des fois. Bon, j'ai dit, c'est papa, il a dit, mais des fois, ça me décourage quand je suis vraiment grondé à tout le temps. Ça me décourage. Bon, c'est des fois, concernant même la fréquentation, des fois, je me sens vraiment mise à l'écart parce que tout le monde a une petite amie. Mais chez moi, ce n'est pas le cas. Quand j'essaie un peu de dire à papa, c'est qui c'est là, il te dit, tais-toi, tu n'as pas le droit de te marier encore, tu dois travailler, tu dois avoir de l'argent, bah, tout ça, ça me fait très mal.
Ça vous fait mal. Vous avez l'impression que des fois, vos parents ont un petit peu des mauvais sentiments pour vous, à votre rencontre?
Oui.
Oui.
Oui, donc je ne me sens pas soutenue, je suis vraiment délaissée. Pourtant, ils devraient bien me guider à atteindre mes objectifs.
Ouais. C'est vrai qu'à force d'être contredit en permanence, Dana Castro, on peut se sentir vraiment déstabilisé. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Léonard?
Oui, je pense que ce qu'il nous dit est vraiment très douloureux, dans la mesure où si on est systématiquement pas soutenu, on peut se poser vraiment, on commence à douter et de perdre toute confiance en soi. C'est d'autant plus difficile que, si j'ai bien compris Léonard, vous avez un sentiment de différence, vous vous sentez un peu différent des autres enfants, des autres adultes, vos amis, qui ont des petites amies, etc. Et ça rajoute à la difficulté et au manque de confiance en vous. Alors, lorsque vos parents vous disent que vous êtes encore un enfant, on est dans le cas de figure où ils ne vous ont pas vu grandir et ils ont l'impression qu'ils ont encore le contrôle absolu sur vous et qu'ils peuvent vous guider dans la vie. Vous avez 23 ans, donc vous n'êtes plus le petit de 6 ans qu'il pouvait absolument conduire. Et peut-être qu'une façon de faire, c'est de ne pas essayer de se fâcher tout de suite, mais dans ce cas de situation, la meilleure stratégie, c'est la patience et c'est l'endurance, c'est-à-dire de revenir toujours à la charge, de revenir toujours en expliquant et en les rassurant. C'est-à-dire que pour rassurer un parent, il faut connaître, il faut savoir un peu quelles sont ses valeurs, il faut savoir un peu quels sont ses points qui le titillent, il faut savoir qu'est-ce qui va déclencher sa colère, essayer de les éviter et essayer d'expliquer exactement ce que vous nous avez dit, c'est-à-dire votre sentiment de responsabilité, le fait que...
Et d'ailleurs, on l'entend quand Léonard parle. Hein. Vraiment, il est bien campé sur ses positions.
Absolument campé sur ses... Donc, ce sentiment de responsabilité, ça veut dire quoi? S'assumer, réfléchir à ce qu'on fait, ne pas être impulsif, donner des exemples, finalement, de votre vie, où vous vous êtes conduit, vous, selon vous, avec responsabilité.
Et Adja, on a vraiment à chaque fois l'impression que les jeunes sont pris un petit peu entre deux. Bien sûr, on a envie d'avancer, mais en même temps, il y a le respect. Quand on est un enfant, on n'a bien sûr pas du tout envie de se montrer ingrat avec ceux qui se sont occupés de nous et qu'on aime. Mais en même temps, il y a un moment où on aurait vraiment envie de dire, là, ça suffit.
Bah justement, c'est le principal conflit hein, entre ces deux notions, du fait que déjà les parents on est redevable envers eux, enfin avec tout ce qu'ils ont fait, mais j'aimerais rappeler à mon jeune frère que tout ce que les parents ont fait pour nous, c'est leur devoir, et toi de même quand tu seras parent, tu seras appelé à faire la même chose pour tes enfants. Donc c'est le devoir des parents de d'accompagner et de soutenir, de financer les études de leurs enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain âge. Et quand tu as un bébé, il faut le laisser voler à un moment donné. Et donc, moi, ce que je peux dire, c'est d'appeler mes frères là à prouver à leurs parents qu'ils sont capables, et ça va les amener à avoir confiance en eux. Donc, ne pas seulement s'asseoir et se résigner, mais il faut travailler dur, il faut faire ce que tu aimes faire. À un moment donné, il faut décrocher. À un moment donné, je dis pas il faut craquer, mais il faut absolument prouver cela. Donc souvent on nous dit que le parent il voit loin parce qu'il est plus âgé, le parent ne va jamais te donner quelque chose qui n'est pas bon, il est toujours là pour ton bien, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier aujourd'hui ce décalage qui existe entre les parents et nous. Ils ne voient pas forcément ce que nous voyons, et pareil que nous. Donc on a besoin de conseils, personne ne dépasse cela, personne ne dépasse l'âge d'être conseillé. On a besoin de cela, mais on n'a pas besoin de quelqu'un pour prendre des décisions à notre place.
Léonard, est-ce que Léonard est encore avec nous?
Oui, je suis là.
Léonard, est-ce que vous avez dit à vos parents que quand ils s'opposaient tout le temps à vous, ça finissait par vous faire mal? Est-ce qu'à la maison, c'est quelque chose dont on parle, de ces sentiments, de dire, écoute, je comprends, papa, complètement ce que tu me dis, mais là, vraiment, c'est quelque chose auquel je tiens. Et en fait, que tu dises non à tout ce que je veux, ça me fait de la peine. Est-ce que c'est quelque chose qui se dit à la maison ou est-ce que c'est quelque chose qui ne se fait pas?
Je leur ai dit d'ailleurs que j'aimerais me montrer plus responsable pour obtenir petit à petit plus de liberté. Mm. Bon, parce que si je trouve que non, je ne suis pas traité comme un jeune adulte, comme un 6 mètres, bon, je décide de faire sans rien dire à mes parents. Ils m'ont dit, bon, je te comprends, pas de problème, on va voir ton problème, ceci, cela. Bon, jusque-là, je n'ai pas de résolution. Bon, j'ai décidé de fréquenter secrètement pour éviter des désaccords avec mes parents, sans rien leur dire. Bon, ça, c'est ça ce que je trouve comme solution.
La solution, c'est plutôt de vivre caché. Mais je vous pose la question sur vos sentiments. Ouais. Est-ce que vous avez le droit à la maison de dire « ça me fait de la peine ce que vous décidez pour moi » Est-ce qu'on a le droit d'avoir des sentiments chez vous ou c'est quelque chose qui ne se fait pas, qui n'est pas correct?
Oui. J'ai le droit de leur dire que papa, ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Ouais. Je ne suis pas un enfant.
Ouais.
Vous devez quand même aider. Vous devez quand même m'aider parce que j'ai besoin de votre soutien.
Bien sûr.
Parce que oui, vous avez déjà dépassé l'étape de l'adolescence, la psychologie. Vous devez quand même me soutenir, m'encourager. Dans la
vie, c'est là. C'est vrai qu'on entend, Léonard, que vous faites preuve, vous encore, beaucoup de patience. Hein, c'est vrai, on a l'image un petit peu contradictoire d'Anna Castro, des jeunes impétueux qui claquent les portes et qui s'énervent, qui s'emportent. Là, ce n'est pas du tout le cas. Hein. On a des philosophes.
On a des philosophes et on a des gens responsables. Mmh. Donc, rien que le fait d'être aussi respectueux, etc., est un argument à discuter avec vos parents sur le fait que vous ne pouvez pas vous mettre en danger compte tenu, ni les mettre eux en danger compte tenu de votre capacité à réfléchir sur ce que vous faites et du respect que vous avez pour eux. Mais ça n'empêche pas que vous puissiez faire ce qui vous fait du bien et ce qui va vous aider au contraire à être plus proche d'eux et eux de vous.
Et de réussir dans tous vos projets. Oui. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Léonard. Excellente journée à Kinshasa. Question en direct, mais aussi message laissé sur le répondeur de Priorité Santé. Hein, après un petit message sur la page Facebook de l'émission Vous enregistrez. C'est ce qu'a fait Fatoumata, qui écoute RFI au Mali. On l'écoute tout de suite.
Bonjour, Caroline. Bonjour à tous les invités. Je me nomme Fatoumata. Je suis au Mali, plus précisément à Bamako. Mes parents ne veulent pas que je fasse des études pour devenir serveuse. Ils ne veulent pas que je fasse des études pour faire du télémarketing aussi. Ils aimeraient que je fasse de la couture, que je sois couturière. Voilà, ça ne m'intéresse pas du tout, du tout, du tout. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que je dois faire pour les faire comprendre que moi, c'est du télémarketing que je veux faire ou c'est du serveuse que j'aimerais devenir dans l'avenir et non couturière, sans autant se discuter avec eux. Parce qu'à chaque fois, c'est des disputes. À chaque fois que je leur dise que je veux faire ceci, cela, ça pose problème. Donc, comment faire pour ne pas tomber dans ces conflits entre mes parents? Merci beaucoup.
Adja Idriss Abba, des disputes à cause encore une fois du métier. Hein, là, c'est les parents qui ont choisi pour Fatoumata. Fatoumata n'a pas la même idée. Et on voit qu'il y a vraiment un problème de génération, notamment sur la nature de ces métiers. Hein, les travaux manuels du côté des parents. Fatoumata, elle, qui aimerait bien travailler plus dans le contact avec les autres, le service, le télémarketing. Les modèles peuvent changer. Parfois, les parents restent un petit peu accrochés à d'anciens modèles.
Justement, je parlais tout à l'heure du gros décalage qui existe entre les différentes générations, mais je pense que le cas de Fatoumata peut s'adapter à l'un des cas que nous avons évoqué tout à l'heure, et c'est possible qu'avec le dialogue, en fait, beaucoup plus posé, beaucoup plus qui se base beaucoup plus sur les exemples des cas réussis, elle peut y arriver, elle peut montrer des exemples, parce que tous les parents aimeraient que leurs enfants réussissent. Il faut qu'elles se disent dans la tête, oui, mes parents m'aiment bien et ils veulent que je réussisse, c'est pour cette raison ils veulent que je me lance dans la couture, parce qu'ils pensent qu'il y a beaucoup plus de revenus dedans. Donc, il faut les rassurer que c'est pas mauvais en soi et que tu peux aussi gagner de l'argent de l'autre côté, que tu peux t'en sortir, gagner ta vie dedans. Et donc, à travers des exemples, des personnes qui ont réussi dans ce domaine-là, elle peut y arriver. Et je pense que il suffit juste en fait de passer les mots qu'il faut. Et après, il ne faut pas rester là, bras croisés, et dire, donc, comme mes parents disent de faire ça, c'est ce que je vais faire, parce que je t'assure que tu vas jamais réussir ce que tu n'aimes pas. Quelle que soit en fait la facilité du métier, si tu n'aimes pas quelque chose, tu vas jamais t'adonner, quelle que soit la facilité. Même si on te dit 1 plus 1, tu vas dire 10 directement. Donc, c'est le conseil que je peux donner à ma sœur, c'est de ne pas baisser les bras et surtout de parler avec ses parents et de savoir qu'elle est autonome. Elle n'est pas encore, elle n'est pas un enfant, c'est pas une mineure. Et donc, que les parents comprennent cela et qu'elle a le droit de choisir en fait ce qu'elle veut et son métier qu'elle veut réaliser.
Conseil très pratique, hein. Demander à une amie qui a réussi dans ce métier de venir rencontrer les parents. On s'assied autour d'un thé et tout ça se passe très bien. C'est vrai qu'on sent d'Anna Castro aussi des parents qui veulent protéger, qui veulent aller vers des espaces sécurisés. La couture, c'est matériel. On sait quand ça commence, on sait quand ça finit, on sait qu'il y a de la demande. Le télémarketing, on n'est pas forcément au courant hein, quand on est de l'ancienne génération, de quoi il retourne précisément. Comment en parler, puisque ça peut durer des années. Là, c'est le cas aussi pour Fatoumata. Elle a été patiente, mais on va dire qu'à un moment donné, on en a un petit peu marre de ne jamais être entendue.
C'est certain, mais dans ce cas, il faut vraiment changer de méthode, c'est-à-dire réfléchir à la méthode qui a été dans la communication, bien sûr, qui a été utilisée jusqu'à maintenant. Des arguments, je suis pas sûre que des arguments comme j'ai le droit, etc., qui sont vrais, peuvent convaincre des parents qui sont inquiets. Je pense qu'il faut, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, qu'il faut bien connaître les parents, savoir pourquoi particulièrement la couture. Donc, il y a deux grandes voies, essayer de faire autrement. Effectivement, comme disait Adja, à travers des exemples de réussite, expliquer le métier, le statut du métier, la capacité à avancer dans le métier, avoir des postes importants, et de l'autre côté, négocier. C'est-à-dire que si vraiment la couture est très importante, ça ne voudrait pas dire que je renonce à jamais à la couture, ça veut dire que ça sera un hobby, que ça sera quelque chose qui... dont on remercie les parents de nous avoir un peu initiés, parce que ça sert toujours, mais que ça sera sur... Disons qu'on va changer les priorités, qu'on va le mettre sur le deuxième plan au lieu de le mettre sur le premier plan. Vraiment, d'une manière générale, je pense, vous savez, dans toute négociation et dans tout conflit, il faut connaître, entre guillemets, son adversaire. Donc, c'est très important de savoir quels sont les points, disons, de... flexibilité des parents, ceux qu'ils peuvent entendre.
Il faut faire preuve de stratégie.
Ouais, et faire preuve de stratégie et ceux qui vraiment c'est impossible qu'ils entendent pour un peu contourner la difficulté. Peut-être pas aller directement à l'attaque, mais prendre une stratégie un peu de contournement.
On va dire que
indirect.
La confrontation pour vous c'est jamais la solution.
Parfois, ça peut l'être, mais pas toujours. Parce que dans la confrontation, il peut y avoir une escalade et à un moment donné, on peut rentrer dans un cycle de manipulation qui ne va plus s'arrêter. « Ah, mais tout ce que j'ai fait pour toi, mais tu étais obligée, mais non, je t'ai pas obligée, tu m'as fait ci et je t'ai fait ça. » Et à la fin, on oublie d'où on est parti et ça crée beaucoup d'émotions négatives, beaucoup de colère, beaucoup de ressentiments et ça bloque absolument le dialogue. On ne peut pas parler avec des... Les gens ne peuvent pas comprendre et nous écouter quand ils sont en colère. C'est impossible.
Donc vraiment, cette émission, c'est négocier, communiquer et reprendre le contact.
Communiquer autrement et reprendre le contact.
À présent, on va donner la parole à une dernière auditrice en direct. C'est Émilie au Congo, en ligne de Brazzaville. Émilie, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors vous, pas mal de conflits avec votre maman, même de grosses disputes. Racontez-nous, s'il vous plaît, Émilie, dans quelles circonstances ?
Alors, je suis Émilie, j'ai 29 ans. J'ai une question. Quelles sont les causes d'une relation conflictuelle mère-fille ? Mais avant tout, j'aimerais... Oui,
justement, sur votre propre expérience, parce que vous, vous êtes passée par pas mal de conflits, justement, avec votre maman.
Oui, c'est ça. En fait, j'ai été élevée par une mère célibataire, sans figure paternelle, jusqu'à ce que ma mère se remarie. J'ai une sœur qui est née de cette union. Nous avons 10 ans d'écart. Les relations entre ma mère et ma sœur se passent plutôt bien, même si quelquefois, elles ne se comprennent pas, mais elles ont quand même une relation mère-fille normale. Avec moi, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que quand je grandissais, tout se passait très bien. C'est-à-dire qu'on avait une relation aussi tout aussi normale que celle qu'elle a avec ma petite sœur. On était comme deux copines, deux bonnes amies. Il arrive que j'ai le bac et ensuite je sors du pays pour poursuivre mes études universitaires. Et c'est à mon retour au pays, quand je finis mon cycle, que les problèmes en fait commencent. Et à mon retour, les remarques, elle a commencé à faire des remarques sur mon style de vie. Elle donnait un avis sur tout ce que je faisais, sous prétexte qu'elle me connaît très bien parce qu'elle m'a faite. Je ne suis pas comme elle. Je pense avoir tout compris de la vie. Elle était constamment en train de me juger ainsi que mon choix de vie.
Votre mère vous fait ses reproches et vous, qu'est-ce que vous lui répondez?
Je lui disais tout le temps, celle que tu as connue, j'étais une petite fille, aujourd'hui je suis une femme. J'ai le droit aussi de prendre des décisions sur ma propre vie, mes choix de vie. Et j'ai envie de prendre une route complètement différente de celle que tu as prise. Et les erreurs que tu as eues à commettre, les choses que tu n'as pas réalisées, moi aujourd'hui j'aimerais faire plus et te prouver que je suis à la hauteur, que tu n'as pas fourni ou fait des sacrifices en vain. Et donc j'aimerais te rendre fière.
Le mot sacrifice, c'est votre maman qui l'employait. Elle disait, avec tout ce que j'ai fait pour toi.
Exactement. Elle était constamment en train de me rappeler dès que je suis rentrée. Hein. Elle me rappelait tout le temps qu'elle a fait beaucoup de sacrifices pour moi, qu'elle a dû se battre pour m'élever toute seule, qu'elle a mis de côté ses projets de vie pour moi. Et même l'homme qu'elle a choisi dans sa vie en se remariant, c'était par rapport à moi qu'elle a fait ce choix. Parce qu'elle aurait voulu partir en Europe à l'époque et qu'elle s'est remariée parce qu'il n'y avait personne, elle ne voyait personne dans la famille qui pouvait rester avec moi. Et donc, c'est pour ça qu'elle a choisi cet homme-là et qu'elle a accepté de vivre avec lui et de rester ici au pays.
On entend que vous avez du tempérament, Émilie. Vous lui avez dit à certains moments qu'elle allait un petit peu loin.
Oh oui, je lui ai dit. Et le jour où je lui ai dit, je me rappelle encore, elle m'a donné 2 bonnes claques. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu une vraie déchirure officiellement. Quoi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a eu un clash en affront, mais direct. Et ma mère aussi, elle a du tempérament. Et donc, c'est très vite, les temps sont très vite montés. Et puis, je suis sortie du domicile familial. J'ai marché pendant un bon bout de temps dans la rue où j'ai cheminé. Et puis, je suis rentrée à un moment donné, je pense, 1 heure plus tard. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus jamais eu une relation normale.
Et aujourd'hui, vous jugez encore que votre relation est anormale, comme vous le dites vous-même?
Aujourd'hui, les relations sont moins tendues. Parce que finalement, après, là, j'ai quand même insisté parce que je voulais partir. Je voulais sortir d'une vie familiale, je ne voulais pas. Mais 3 ans plus tard, j'ai quand même pu, je suis sortie, j'ai eu un emploi stable, j'ai commencé à travailler. Et même là encore, lorsque je n'étais pas chez elle, j'ai démissionné de là où j'étais. Elle n'était pas contente, elle n'était pas d'accord, elle a donné un avis sur ça. Je lui ai dit que j'avais d'autres projets de vie et j'ai retrouvé un emploi assez rapidement. 1 mois plus tard, j'étais encore dans une autre entreprise. Et là, elle me dit, oui, c'est peut-être une fois, mais ça ne se répétera pas, tu n'auras pas cette chance 2 fois.
Émilie, est-ce que quand vous étiez indépendante financièrement au niveau de la maison, finalement, ça vous a libéré de cette prise, voire de cette emprise?
Quand j'étais indépendante, c'est vrai, mais pas totalement, à moitié. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je participais parce qu'elle a divorcé de son homme. Donc, nous avons pris un appartement toutes les deux, ainsi que ma petite sœur. Et donc, on a commencé à faire moitié-moitié au niveau des dépenses. Et elle était quand même assez contente, mais toujours est-il qu'elle avait un avis sur tout. Elle avait un avis sur tout. Elle voulait aussi quand même avoir un avis sur mes finances, ce que je n'acceptais pas. Et je lui disais tout le temps, mais les finances, ça dépend. Ma vie, ça dépend. Je prends toujours les décisions, quel que soit ce que tu me dis. En fait, au final, j'ai fini par lui faire comprendre que j'écoute ce qu'elle me dit et la décision finale me revient. C'était quand même dur.
C'est dur, on l'entend. Dana Castro, hein, on voit une fille forte, une mère forte, et au bout du compte, Émilie, qui fait preuve quand même de patience, qui va étape par étape. Sa maman n'a pas d'autre choix que de la voir grandir, de la voir s'émanciper. Mais c'est vraiment quelque chose de compliqué à vivre. Là, c'est des parents, c'est une maman. Toute la fonction parentale est assumée par cette maman.
Oui, donc effectivement, c'est une situation très difficile à vivre, mais en même temps, Émilie, vous avez beaucoup de courage, vous êtes très déterminée, et sachez que le temps travaille toujours pour les enfants. À un moment ou à un autre, les parents vont céder. Il est maintenant admis, le temps travaille toujours pour les parents. Donc, pardon, oups, quel lapsus,
Pour
pour les
les
enfants,
enfants, oui.
pardon. Ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est que la relation a changé au moment où vous êtes revenu de vos études, où vous êtes revenu d'Europe. C'est comme si pendant le temps de vos études, elle ne vous avait pas sous les yeux, donc
Elle n'a pas pris la conscience de l'évolution.
Non, exactement, elle n'a pas pris la conscience de l'évolution. Elle s'est fait peut-être des films dans la tête. Et lorsque vous êtes revenu, elle a essayé, par tous ses avis sur tout, etc., à reprendre une espèce de contrôle sur la jeune fille ou la jeune femme qui était partie aux études. Et c'est là où finalement ça a commencé à être très difficile. Elle a beaucoup d'amertume aussi par rapport à sa propre vie et elle se positionne, enfin elle essaye d'utiliser ça pour que vous lui accordez une certaine valeur. Oui, elle se met peut-être en rivalité parce qu'elle voit que vous allez au bout de vos rêves
De vos
et
projets
qu'elle n'a
sans
pas
entrave.
réussi. Mais je pense vraiment qu'il est très important de valoriser son éducation. Vous dites vous-même qu'elle vous a bien élevé, etc. Et que même si, disons que le projet d'éducation avec ses enfants a été réussi pour elle, même si les autres qu'elle avait n'ont pas abouti. Je pense qu'il est important de valoriser son éducation, de valoriser tout ce qu'elle vous a apporté, et vous verrez qu'il y aura peut-être un changement.
Et en tout cas, l'important, c'est qu'on voit qu'il y a eu pas mal de disputes, mais il n'y a pas eu de rupture.
Non.
Déjà, le mot de la fin, on entend Émilie. En tout cas, elle n'a pas dévié de ses projets de départ. Elle a fait preuve de ténacité. Et justement, elle a pu aller au bout de sa propre vie en étant aujourd'hui indépendante.
Bah, elle est un modèle, hein. Je pense que elle est un modèle pour cette jeunesse qui arrive difficilement à ces attentes-là. Donc elle déjà, elle est sur la bonne voie. Je pense que elle doit être fière de cela. Et à nous autres qui sommes partis et qui sommes sur le chemin, à nous aussi de faire preuve de cela, parce que nous allons tous faire face à ce genre de difficultés. Tous les jeunes, j'ai envie de dire, du moment où on arrive à faire, enfin, à bien se lancer, à réussir, les parents commencent à avoir peur de nous perdre, et surtout les garçons, enfin les garçons, j'aimerais attirer l'attention de tout un chacun sur ça, parce que souvent ce garçon qui est appelé à fonder une autre famille, et donc les parents sont là, ils ont peur que ce dernier n'épouse une autre femme, qui va leur arracher leur enfant et perdre surtout cette richesse qu'ils ont là. Donc ça, c'est un gros problème que souvent nous rencontrons dans nos sociétés. Donc c'est pour dire que c'est possible. Et donc à toute la jeunesse africaine du monde entier de pas avoir peur et de réaliser leur projet et d'aller tout doucement et de faire preuve de patience.
La difficulté en même temps de faire passer ses idées tout en respectant les aînés. Une fois encore, mieux communiquer, éviter l'affrontement, opter pour la négociation. Merci. Merci à toutes les deux d'avoir participé à cette émission d'Anna Castro. On peut citer un autre ouvrage que vous avez signé, Ces expériences de vie qui nous font grandir, publié aux éditions Vigo, c'est ça? Je me trompe pas. Et merci beaucoup à Jaïd Rissa. Bah, on se dit au revoir, un grand merci, portez-vous bien. Petit mal de gorge, on entendait, on vous dit très bon rétablissement. À bientôt, le mois prochain, j'espère, dans Priorité Santé. Notre émission s'achève. Merci à toute l'équipe, Ophélie Lassane, Louise Caledec, Didier Bleu et Tiffany. Demain, émission spéciale question de femmes. On parlera des fibromes utérins, symptômes, diagnostics, prise en charge, traitement. À demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance IARD RDC qui assure vos biens, votre responsabilité et votre patrimoine financier. Retrouvez-nous à Kinshasa, immeuble Blue Waves Tower. Sous nos assurances, notre métier, l'assurance.
7 milliards de voisins.